Je vous parlerai aujourd'hui de l'empereur Justinien et de la querelle dite des trois chapitres. C'est un chapitre très compliqué qui m'a valu de longues heures de réflexion. Justinien fut un empereur, il est né en 483 et il fut empereur de 527 à 565. C'est le plus glorieux de la dernière dynastie qui régna sur ce que l'on pouvait encore appeler l'Empire romain, dont la capitale était désormais Constantinople. La dynastie de Justinien régna de 518 à 602. Elle eut un appendice avec celle d'Héraclius, qui régna jusqu'en 641. Justinien succéda à son père Justin Ier, originaire de la Dacie, l'actuelle Roumanie. Justin Ier était un guerrier vaillant, excellent administrateur, quoi qu'il lettrait. Il tint à donner à son fils, qui devait devenir empereur Justinien, une éducation très soignée. Justinien était doué d'une puissance de travail peu commune. Certains l'ont nommé l'empereur qui ne dort jamais. Toutefois, il cachait sous des manières simples et affables un côté méfiant, parfois ingrat. Il avait pour épouse Théodora, une ancienne danseuse, fille d'un des gardiens des ours à l'hippodrome. Très belle, elle était aussi très intelligente et audacieuse. Elle eut une grande influence sur son mari. Elle disait qu'il ne décidait jamais rien sans avoir pris son avis. Elle joua un rôle important dans les querelles doctrinales dont il va être question. Justinien avait pour principale ambition de servir l'Église. Mais son grand rêve était de reconstruire l'Empire romain dans sa grandeur, de la Crimée aux colonnes d'Hercule. Avec l'aide d'une armée bien équipée et très bien commandée par d'illustres généraux, Nasrès et Bélisaire, il réussit à reprendre aux barbares l'Afrique du Nord, les pays danubiens, l'Italie et l'Espagne. Il faut toutefois préciser que cette reconquête ne fut pas toujours ressentie comme une délivrance, car elle était souvent accompagnée de lourds impôts. Justinien tenait en effet à donner à sa cour beaucoup de prestige et à entreprendre de grands chantiers, de solides fortifications, mais aussi des monuments religieux comme la cathédrale Sainte-Sophie qui fait toujours notre admiration. Toutes ces activités étaient ruineuses. Le trésor était d'autant plus en difficulté que Justinien avait accepté de payer un tribut aux Perses afin de consacrer l'essentiel de son armée à la partie ouest de son empire et donc d'avoir la paix à la partie est. De plus, les historiens laissent entendre qu'ils n'étaient pas très sourcilleux sur les opérations financières de ses ministres, lesquels avaient une certaine propension à s'enrichir personnellement. Cela ne date pas d'aujourd'hui. La pression fiscale atteignit un niveau de moins en moins supportable pour ses sujets. Cela non plus ne date pas d'aujourd'hui. Sur le plan juridique, Justinien élabora un code dont l'essentiel a longtemps constitué l'armature juridique de l'Empire et qui a même inspiré le Code Napoléon. Il a rédigé un manuel de droit pour ses étudiants. Il était considéré comme dévot, bien que la politique l'ait parfois conduit à des répressions énergiques. À la suite d'une rixe entre assistants à une course de chevaux, on dirait aujourd'hui de supporters, ce ne sont plus les courses de chevaux, c'est du football, mais ça revient au même, de violentes émeutes éclatèrent, ce fut la sédition Nika. C'était en 532. Justinien y mit fin, moyennant, disent les historiens, 30 000 morts. Ah, on en est loin. Un des grands objectifs de Justinien était d'éradiquer les hérésies dans lesquelles il incluait les païens, les juifs et les nestoriens. Son grand défaut a été de se surestimer, de croire qu'il était de son devoir de dicter au pape ce qu'il devait faire et penser. Il se laissa entraîner à des discussions très subtiles à la limite de la confusion. Le déroulement de la principale de ces querelles, appelée querelle des trois chapitres, est fort compliqué. Malgré plusieurs heures passées enfouies sous cinq livres, celui de l'abbé Hublin, l'Orient chrétien de Monseigneur Logier, l'Histoire universelle, de l'Encyclopédie de la Pléiade et les dictionnaires Quille et Robert, je les mentionne pour ne pas être accusé de plagiat, malgré donc ce temps voué à la recherche, je ne suis pas certain d'avoir tout compris. Essayons de planter le décor en simplifiant beaucoup. En 431 se tint le concile d'Éphèse qui condamna les Nestoriens pour lesquels le Christ était avant tout un homme adopté par Dieu. La Vierge n'était plus mère de Dieu, mais seulement mère du Christ. En 451, 20 ans plus tard, le concile de Chalcédoine condamna le monophysisme qui professait que la nature humaine du Christ était en quelque sorte absorbée par sa divinité, seule comptait sa nature divine. Deux hérésies symétriques. Deux hérésies qui prouvent qu'on réfléchissait à des choses fort difficiles. Ajoutons que le nestorianisme progressait à l'extérieur des frontières de l'Empire, on en trouvera des traces en Chine, alors que le monophysisme fleurissait dans les provinces les plus riches de l'Empire à l'époque, notamment en Syrie et en Égypte. De plus, l'impératrice se sentait très proche des Eutychiens, comme on appelait alors les monophysites. Essayons de démêler les fils de cette intrigue. Les Eutychiens, monophysites, reprochaient à certains pères du concile de Chalcédoine au cours duquel ils avaient été condamnés d'avoir professé des opinions non conformes à la doctrine reconnue par l'Église. Ils demandaient donc la condamnation officielle de leurs auteurs, dont Mospuès, Théobert et Ibas, qui avaient été des membres influents du concile, condamnation de texte appelée les trois chapitres. Notons cependant deux choses. D'abord, cela se passait en 530, environ 80 ans après Chalcédoine qui lut en 451. Ensuite, les textes incriminés avaient été rédigés avant le dit concile dans deux propositions discutées, dont les accusés avaient fait amende honorable, les accusés avaient fait amende honorable quant aux propositions discutées. Mais les Nestoriens tenaient à attaquer les personnes, pensant à travers ce procès mettre en doute tout le concile. Le pape d'alors, Silvère, avait toujours de bonnes relations avec, pourrait-on dire, les successeurs des pères incriminés. Voulant regagner l'ami des Eutychiens, Justinien demanda au pape de condamner les trois chapitres et leurs auteurs, se prévalant d'une stricte orthodoxie. Le pape était réticent, puisqu'il fallait aussi condamner les auteurs. Justinien envoya à Rome son général Bélisaire pour ramener Manu Militari, le pape réticent, à Constantinople. Le pauvre Silvère fut emprisonné, exilé, et ne tarda pas à mourir victime de mauvais traitements. L'empereur fut nommé comme successeur, Vigile, d'un caractère réputé accommodant, recommandé par Théodora, donc proche des monophysites. Mais, à peine monté sur le trône de Saint-Pierre, Vigile changea d'attitude. Il consentit à titre de conciliation à condamner les trois chapitres, mais sans en nommer les auteurs, ce qui provoqua la fureur des Eutychiens. C'était en 537. En 548, Justinien fit traîner le nouveau pape à Constantinople, cela devenait une habitude, Vigile parvint à fuir. Dans un premier temps, Justinien révoqua son édit, mais convoqua un nouveau concile. Vigile refusa d'y participer, ainsi que la plupart des évêques occidentaux. Il fit paraître un document théologique tout de charité, mais refusant toujours de condamner les personnes auteurs des trois chapitres. En représailles, le prétendu concile de Justinien lança un anathème contre le pape, le rayant du canon de la messe. Dans un dernier effort de conciliation, le pape Vigile confirma en 553 la plupart des conclusions du pseudo-concile, mais en refusant toujours de condamner les personnes incriminées et de convoquer un nouveau concile. Les Eutychiens se révoltèrent. Il en résulta un schisme qui dura officiellement 40 ans, mais dont les conséquences se firent sentir jusqu'à la fin du 7e siècle, même après. Que la doctrine proposée avant le concile d'Éphèse fût répréhensible, tous en convenaient. Mais il ne s'agissait pas de dogme, seulement d'opinion personnelle. Cette querelle mit en lumière les difficultés d'accorder les points de vue de l'Orient et de l'Occident, annonce de complications futures. De fait, les Eutychiens tenaient surtout à prendre la revanche du concile de Chalcédoine, pendant que Justinien tenait à se montrer plus orthodoxe que le pape lui-même. C'est quand des contemporains appelaient cela des querelles de moines, on parla plus tard de querelles byzantines. La situation se compliqua encore quand, dans le souci de maintenir l'unité de son empire, Justinien confia l'évangélisation de certaines frontières à des Nestoriens. Malgré tout, la Syrie, l'Égypte et l'Arménie, les régions les plus riches de l'empire, restaient attachées au monophysisme, pendant que l'Afrique penchait pour le donatisme voisin de ce que nous appellerions maintenant le puritanisme. Une phrase vient tout de suite à l'esprit. Tout royaume divisé contre lui-même périra. L'islam n'allait pas tarder à venir. Justinien mourut en 565. Les deux premiers successeurs, Justin II et Tibère III, laissèrent s'installer une anarchie aggravée par les invasions des Slaves et des Hongrois au nord du Danube et surtout par la reprise de la guerre contre les Perses. Sous le règne des Chosroès, nom de deux empereurs de Perse, la Perse se dota d'une armée redoutable avec des mercenaires d'Asie et des éléphants de guerre. En 573, Justin acheta une trêve à prix d'or. L'empereur Maurice, qui avait de bons rapports avec le pape, reprit un peu de terrain, mais ce n'était qu'une trêve. Sous son successeur, les Perses ont conquis la Mésopotamie, une partie de la Syrie et un grand morceau de l'Asie mineure. Les habitants de Constantinople pouvaient voir les bataillons ennemis depuis le Bosphore. En 610, Héraclius renversa Phocas, mais les Perses continuaient leur avance. En 612, ils prenaient Antioche, en 614, Damas et en 615, Jérusalem. Les Perses s'emparèrent de la vraie croix et des reliques qui y sont attachées. En 617, toute l'Égypte passe entre leurs mains. Il ne reste à Héraclius que sa flotte, excellente il est vrai, et quelques terres en Grèce et en Asie mineure. La Perse triomphe et accumule les richesses. Dans ses expéditions guerrières, l'empereur emmenait avec lui 960 éléphants et un troupeau de 20 000 chameaux portant des tentes et des bagages. Mais le patriarche Sergius réveilla l'ardeur d'Héraclius. Le nouvel empereur refit une armée en robant des soldats venant de Thrace. Il acheta les neutralités des Avars et, grâce à sa flotte, prit l'armée de Chosroès à revers en débarquant aux confins de la Syrie et de la Turquie actuelle. Il entreprit avec succès trois grandes expéditions, l'une d'elles poussant jusqu'en Mésopotamie. Il s'assura l'aide des Turcs en remportant une victoire définitive à Mossoul. On a comparé la soudaineté de ses campagnes à celle de Napoléon dans sa meilleure époque. Après la victoire de Mossoul, Chosroès dut capituler. Il ne tarda pas à être assassiné. Son successeur Kawachervé rendit à Héraclius la vraie croix et ses reliques, ainsi que la souveraineté sur l'Égypte et les provinces perdues. Le 21 mars 630, le retour de la vraie croix à Jérusalem donna lieu à une grande fête sous la présidence de l'impératrice Martine. Malheureusement, le déclin suivit très vite, dû au fanatisme des cavaliers arabes que l'islam poussait hors de leurs frontières, mais aussi à l'hostilité des populations monophysites envers Constantinople et le catholique Héraclius. En 634, les Arabes prenaient Damas, Héraclius ramena la vraie croix à Constantinople, et 4 ans seulement après avoir fêté son retour, les Arabes prenaient Damas. Héraclius mourut en 641, dans une démence due en partie aux échecs de la fin de son règne. Ce que l'on pourrait appeler son épopée n'avait pas duré 20 ans, mais elle permit de sauver l'Empire d'Orient pendant que la Perse disparaissait sous l'invasion arabe. Héraclius avait sauvé l'essentiel, mais la chorale des 3 chapitres avait été durement sanctionnée. Là-dessus, je vous souhaite un bon été. J'espère que le printemps est revenu et que tout va bien. À bientôt, toujours en union de prière.